Grand Prix de Mbujima et au Kassai Oriental. Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous, merci de vous joindre à nous pour ces derniers numéros des paroles aux auditeurs de cette semaine. Le gouvernement belge vient de croyer 5 170 000 $ américains à l'Institut National des Préparations Professionnelles, INPP, pour que cet établissement public congolais s'affaire à accroître l'emploi, l'auto-emploi et à œuvrer dans l'alphabétisation informatique des jeunes et la maîtrise des outils informatiques par ces derniers dans la province du Katanga. Le programme concerne 10 000 jeunes, dont la moitié deux filles. Le projet sera exécuté par le Bureau international du travail. Que pensez-vous de cette initiative dans la lutte contre le chômage des jeunes? 081 890 43 39, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct. Nous avons invité pour vous Roger Nkambou, chargé des programmes Point Focal Communication au Bureau international du travail ici en RDC. J.R. Lungembo, Titi Poutou assure la réalisation de cette émission mise en onde par Sylvain Matondou. Pierrot et la Meiji vous la présentent sous la supervision de Ben Kabamba. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Meiji.
D'aucuns n'ignorent que le chômage touche environ 80% de la population active en RDC, et dans plusieurs initiatives de lutte contre le chômage de jeunes, il y a ces projets soutenus par le gouvernement belge avec près de 5 millions de dollars américains accordés à l'Institut national de préparation professionnelle pour la direction provinciale du Katanga dans le cadre de la formation des 10 000 jeunes, dont la moitié des filles, en leur permettant bien sûr l'accès et la création des emplois. Qu'est-ce inspire à tous les auditeurs des Radio Capi dans la lutte contre le chômage? En attendant, bien sûr, que notre invité puisse être avec nous en ligne dans cette émission, qui est Roger Nkambou du programme du Bureau international du travail. Nous avons déjà les auditeurs qui sont en ligne, comme Confiance qui est ici à Kinshasa, Mathieu qui est à Kananga, et Mavu aussi à Kananga dans la province du Kasaï occidental. Kabongo, on est avec vous, bonjour.
Bonjour, Mote Jambo, à tous les occupants de la radio de la paix.
Que vous inspire alors cette initiative d'appuyer la formation qui peut à la longue profiter aux jeunes dans l'auto-emploi? Ça veut dire qu'eux-mêmes soient à mesure de créer des emplois et pouvoir ainsi s'occuper, absorber quand même le chômage, de Confiance.
C'est une très bonne chose qu'on ait pensé au gouvernement congolais ou au peuple congolais. Ce sont des gestes qui se sont toujours manifestés. Mais une grande chose est que ce que nous devrions éviter, c'est qu'elle soit gérée par des structures non indépendantes. C'est déjà une bonne chose quand j'ai entendu qu'elle sera gérée par l'OIT, je crois. Et nous voudrions vraiment que ces fonds soient gérés par des structures indépendantes, des ONG, pour éviter que ces fonds finissent dans les poches des dirigeants congolais.
Mais à la longue, parce qu'il y a quand même le besoin de l'emploi, on le sent en RDC, on a des problèmes très sérieux, mais quelles sont les mesures qui peuvent être plus efficaces dans la durée pour faciliter à la jeunesse congolaise l'accès à l'emploi?
Moi, j'aurais souhaité qu'on soutienne la créativité. Il y a des jeunes qui sont très créatifs et qui n'ont pas de moyens. Il suffit qu'on cible ces gens-là, qu'on cible ces jeunes qui ont des créativités, des gens qui ont tendance à aller dans le sens des nouvelles technologies, le transfert de technologies aussi, je pense que ce serait un bon cas. Vous savez, le Katanga, c'est une province minière, et dans la plupart des cas, les jeunes ont tendance à aller vers les mines. Mais le danger, c'est que les mines sont souvent de ressources épuisables. Mmh. Moi, j'aurais voulu que la formation soit beaucoup plus liée à la technologie, hein, au transfert de technologies. Même si c'est dans le domaine minier, que l'on forme les jeunes dans l'exploitation, dans l'autonomie, beaucoup plus d'efforts soient faits dans l'autonomisation. Mmh. Je pense que c'est une bonne chose. Aider la base. Oui.
Merci beaucoup, Kabongo, de nous avoir appelé de Kinshasa. D'ailleurs, vous souhaitez qu'il y ait la formation dans l'autonomisation, mais aussi dans l'échange des technologies. Ça peut permettre aux jeunes de pouvoir s'occuper ainsi plus longtemps, parce que les jeunes dans la province du Katanga, comme au Kassai, comme dans d'autres provinces, hein, même à l'est du pays, ont tendance à aller dans les secteur minier où nous avons des ressources épuisables. Merci beaucoup, Kabongo. Nous allons à Kananga au Kassai occidental. Mathieu, vous êtes avec nous. Bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste Pierrot.
On vous écoute.
J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt le lancement officiel du programme d'activité pour l'emploi des jeunes au Katanga, PAE et GECA, en date 19 mars 2013 passé, par le ministre du Travail en personne, dont l'objectif est de lutter contre l'exploitation des enfants non scolarisés dans les carrières minières dans cette province du Katanga, financée par le Royaume de Belgique, à un budget de 5 170 088 $ américains pour une durée de 3 ans, où sa mise en œuvre est confiée au Bureau international de travail PIT.
Oui.
Je crois que le démarrage effectif de ce projet interviendra le 19 avril de cette année. D'après moi, monsieur journaliste, c'est encourageant. Mais j'avais voulu proposer qu'on mette en place le comité de suivi pour que cet argent soit utilisé exceptionnellement pour ces projets, puisqu'il faut que ces enfants soient mis à l'enseignement technique pour qu'ils apprennent tous les métiers. Ce n'est pas pour rien qu'ils sont optés pour les carrières minières. C'est compte tenu de la souffrance et de la misère qu'ils ont subie à leur famille. Mais ce projet doit continuer dans d'autres provinces du pays. La situation reste de même au Kassai ici chez nous et à l'est du pays avec le phénomène enfant-soldat. C'est ça ce que je voulais vous dire, monsieur le journaliste.
Merci beaucoup, Mathieu. Vous maîtrisez bien vraiment le paramètre. Vous avez tous les éléments pour ce projet. Mais vous souhaitez qu'on puisse investir dans la formation, dans l'enseignement technique, que les jeunes soient formés, et qu'ils soient à mesure de créer de l'emploi, mais aussi étendre les projets dans d'autres provinces, pourquoi pas au Kassai, pourquoi pas à l'Est, avec le phénomène enfants des soldats. Beaucoup d'enfants qui sont sortis de l'armée, des groupes armés, n'ont pas de l'emploi. Ils ont besoin d'être encadrés comme ça pour pouvoir créer de l'emploi. Merci beaucoup de votre intervention de Kananga. Nous restons dans la même ville avec Mavé. Vous êtes avec nous. Bonjour. Mavé, bonjour. Et là, on a des petits soucis avec la ligne de Mavé. Nous retournons dans la capitale Kinshasa. Jean, bonjour.
Bonjour, Pierrot. Bonjour, Farah.
Vous avez suivi les uns et les autres. On appuie le programme, les soutiens du Royaume de Belgique par rapport à la formation, à la création de l'emploi avec concernant 10 000 jeunes dans le Katanga. Mais les uns souhaitent qu'il y ait un comité de suivi pour que ces fonds soient gérés comme il faut. Ça sera bien sûr, le programme sera exécuté par le Bureau international du travail. Mais alors, dans l'avenir, comment on peut, selon les spécificités de chaque milieu, comment on peut s'investir dans un programme que vous pouvez proposer pour permettre aux jeunes d'être formés et surtout d'accéder à l'emploi, Jean?
Ok, merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. Je crois que ce projet, c'est quelque chose vraiment à soutenir avec beaucoup plus de force. Et c'est pourquoi je ne vais pas aller à la contre de ce qu'ont dit mes prédécesseurs pour ce qui concerne les suivis. Parce que nous remarquons que dans notre pays, nous recevons toujours des dons et des projets qui sont financés, mais dont on ne connaît pas les aboutissements. Alors, c'est pourquoi je vais demander, je ne sais pas quelle structure va mettre en place pour faire réellement le suivi si seulement l'argent affecté, c'est beaucoup d'argent, si ça sera réellement mis à disponibilité pour que les bénéficiaires puissent en tirer profit. C'est-à-dire, prendre une équipe sérieuse qui va vraiment faire le réel suivi et pour qu'à la fin aussi qu'on puisse nous présenter les jeunes gens et les jeunes filles qui étaient formées pour bénéficier de ces dons. Alors, c'est un très grand projet, bon, comme je disais, c'est de tout le monde, même ici à Kinshasa. Nous remarquons que nous avons, bien sûr, il y a l'INPP ici, ça coûte un peu cher aussi, si vous y allez, pour acquérir, surtout les gens qui n'ont pas, qui n'ont jamais été à l'école. Quand ils y vont, ils prennent beaucoup de temps pour la formation. Je voulais aussi marteler à ce que puisse étendre aussi dans d'autres provinces comme Kinshasa. Kinshasa, c'est déjà quand même quelque chose. Mais dans les provinces orientales, Kikwiti, disons, Bandundu, ainsi de suite. Mais cela sera possible que si le premier projet qui est déjà fait au niveau de Katanga a eu du succès, c'est-à-dire par le suivi et la présentation des fruits de ces travaux, de ces projets au niveau de la population.
Mm-hmm.
Bon, peut-être, en dehors de la pratique, disons, de rester dans le projet allant de 5, 6 mois, 1 année, tout ça, on peut former des gens pour des projets de 3 mois. Au bout de 3 mois, quelqu'un peut être apte à faire ceci. Et plus concrètement, et à partir de là, lui aussi pourra avoir une autre équipe à former. Et je crois qu'on va quand même résoudre le temps soit peu le problème de l'emploi dans notre pays.
Merci beaucoup, Jean. D'ailleurs, on aura un moment à l'autre notre invité Roger Kambou, qui est du Bureau international du travail. C'est l'organe technique chargé de gérer et d'exécuter ces projets, qui pourra expliquer le mécanisme des suivis et des transparences dans la gestion de ces fonds et comment cela peut être plus opérationnel sur terrain et permettre aux jeunes de pouvoir accéder à l'emploi. Nous avons un autre auditeur qui est avec nous dans cette émission, c'est Franck. Bonjour Franck.
Bonjour Thierry, bonjour à tous les compatriotes.
Vous avez suivi les uns et les autres. Il y en a qui souhaitent qu'on puisse avoir ces genres de projets appuyés dans beaucoup de provinces. Bien sûr, c'est un projet appuyé par le Royaume de Belgique, mais le problème de l'emploi, c'est aussi une organisation interne, la création de l'emploi, des richesses, la création des entreprises d'une manière interne pour faciliter aux jeunes l'accès à l'emploi. Qu'est-ce qui peut être fait dans ce domaine?
Oui, merci beaucoup. Au départ, nous devons reconnaître que l'intention en soi, elle est bonne pour l'avenir de nos jeunes. Mais il nous faudra aussi assez de rigueur, assez de loyauté au niveau de la gestion. Parce que une chose, c'est de recevoir un don. Une deuxième, de dire ce dont il sera question avec ce don. Et une troisième, c'est de savoir aussi matérialiser l'intention des donateurs. Mais qu'est-ce qu'on constate chez nous? On reçoit, on dit qu'on a encaissé autant de millions pour telle urgence, pour telle finalité, mais 6 mois après, 1 année après, on se rend compte que sur place, rien n'est fait. Donc de ce côté-là, nous devons aussi vraiment le dire tout haut, qu'il faudra maintenant à nos gestionnaires un peu de rigueur, un peu de sérieux, d'honnêteté au niveau de la gestion.
Mmh.
Un deuxième aspect, le chômage à RDC, il concerne toutes les provinces en tout cas. Donc, pour ne pas seulement penser aux jeunes d'une province, ça serait mieux que le gouvernement se penche aussi à ce chapitre-là. Parce que, personnellement, nous devons aussi nous poser des questions si c'est vraiment les autres gouvernements qui devront penser à subventionner des fonds pour préparer notre jeunesse ou quoi. Est-ce que notre gouvernement, quand on élabore des projets budgétaires, ne peuvent-ils pas penser aussi à trouver des fonds comme ça pour préparer nos jeunes? Et nous devons aussi nous dire quelque part, la main qui donne cherche aussi d'une autre manière à diriger, à contrôler. Maintenant que ce don est encaissé, on n'a pas vu quelqu'un monter au créneau dire nous sommes un État souverain, nous sommes ceci. Mais quand cet argent sera détourné et que le gouvernement belge arrive à nous demander des comptes, c'est alors que nous allons voir déjà parler de la souveraineté. Je crois que c'est à ce niveau qu'il faut vraiment parler du sérieux de ce que nous voulons.
Mm-hmm.
Est-ce que nous voulons être un pays souverain en attendant des dons qui viennent de l'extérieur pour nous développer, ou devrions-nous aussi nous mettre d'accord pour repenser les processus de notre développement de l'intérieur de notre pays?
Voilà, merci. Merci beaucoup Franck. Notre invité est déjà en ligne. Vous souhaitez qu'au-delà du fait que nous puissions recevoir des appuis venant de l'extérieur dans le domaine de la création de l'emploi, il serait mieux aussi qu'au niveau du budget de l'État, qu'on puisse déjà planifier chaque année le fonds nécessaire pour la création d'emplois des jeunes. Mais vous avez souhaité qu'il y ait la rigueur et la loyauté dans la gestion de ces fonds. Avant de donner la parole à notre invité, nous allons écouter aussi l'auditeur Paulin qui nous appelle de Kananga au Kasaï occidental. Bonjour Paulin.
Bonjour Monsieur Perrault, bonjour aux auditeurs de la fréquence de la paix, bonjour à l'invité.
Vous avez suivi les uns et les autres. Pour vous, qu'est-ce qui doit être fait au-delà d'un soutien comme celui-ci pour faciliter aux jeunes d'avoir accès à l'emploi?
En tout cas, Monsieur les journalistes, je reste un peu pessimiste en ce qui concerne l'administration congolaise. puisque ça fait la nuit des temps que nous avons constaté autant de maux qui rongent l'administration congolaise, entre autres la corruption, le détournement, la méjection. Et le peuple se demande, les fonds que vient de donner la Belgique, va-t-il faire son travail? On ne sait pas, point d'interrogation, à l'éviter de me répondre. Et puis j'aimerais ajouter encore une chose, c'est que avec la mentalité congolaise, vous verrez que pour accéder même à cette formation, il faut être enfant de... Il faut être petit frère A, hein? Il faut être oncle A. Hein? On ne doit même pas tenir compte de la capacité intellectuelle des personnes à former qui seront capables de développer au mieux les aptitudes. Voici un peu ma contribution. Je dis et je vous remercie.
Merci beaucoup, Paulin. Deux inquiétudes. Hein. D'abord, par rapport au problème de la gestion des fonds, vous demandez à notre invité s'il y aura vraiment de la transparence et que ces fonds vont vraiment accomplir sa mission, mais aussi par rapport à la sélection des jeunes qui doivent bénéficier de la formation pour créer de l'emploi. Pensez-vous qu'il y ait aussi de la transparence sans favoritisme ni trafic d'influence? 081-890-4339. C'est notre numéro d'appel pour intervenir dans cette émission.
Parole aux auditeurs.
Roger Kambou, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargé de programme et point focal communication au Bureau international du travail ici en RDC. Nous l'avons dit à l'introduction que les BIT, c'est, on peut dire, l'organe technique hein, pour l'exécution de ces projets. On a eu aussi beaucoup d'inquiétudes de nos auditeurs bien avant que vous soyez sur les antennes par rapport au mécanisme, comment ces projets vont-ils fonctionner pour faciliter aux jeunes l'accès à la formation, aussi la création de l'emploi. Pour vous qui allez exécuter le projet. En quelques mots, en quoi consistent exactement ces projets qui doivent faciliter l'emploi aux jeunes, de l'accès à l'emploi?
Oui, merci beaucoup Radio Capi. Et bonjour à tous les auditeurs, bonjour à tous les amis qui sont en ligne, Dieudonné à Kinshasa, je crois, et Paulin qui est à Kananga. Je m'excuse d'avance pour ma voix qui est un peu rauque parce que je suis grippé.
C'est bien, il n'y a pas de problème, on vous entend mieux, oui.
Ouais. Je n'ai pas saisi toute la partie précédente, c'est un serpent que je prends voilà, par les milieux avec tous les risques d'être un peu à côté, mais je vais m'efforcer voilà, de me résumer pour être dans le contexte.
Oui.
Disons, quel est le programme, voilà, qu'est-ce qu'il est, voilà, et quels sont les bénéficiaires qu'il vise et dans quel axe il doit se réaliser. Alors, le... Donc voilà, programme que nous appelons programme d'action intégrée pour l'emploi des jeunes au Katanga, PAEJEC en sigle. C'est un programme qui vient en réponse à une problématique à la base. Et la problématique, c'est que généralement, dans le contexte de la RDC, qu'il y a un contexte de manque d'emploi. La situation n'a fait que se dégrader depuis les années 70, et elle est aujourd'hui l'une des préoccupations majeures du gouvernement. Et c'est dans ce sens d'ailleurs qu'il y a eu, dans les priorités des 5 chantiers, il y a eu un chantier emploi, et maintenant dans la révolution et le suivi de la modernité, il y a également l'emploi qui figure en bonne ligne. Mais le contexte, disons que le contexte particulier pour la province de Katanga, c'est que c'est une province essentiellement minière où la population et résolument tourner vers des emplois salariés qui sont proposés par les industries extractives. Et il en résulte une faiblesse de l'esprit entrepreneurial à travers des initiatives privées créatrices des emplois, surtout dans le contexte des pays fragiles tels que les nôtres. Et c'est dans ce sens-là voilà, que les projets visent à pallier d'une manière ou d'une autre à ces insuffisances. Et voilà, par rapport à la province de Katanga, la situation est exacerbée par la crise financière internationale de 2009 et qui a conduit à l'effondrement des coûts des matières premières, particulièrement les cuivres. Et c'est dans ce sens-là que nous avons entendu parler des 300 000 emplois perdus dans les Katanga et que sais-je encore. Même si ce chiffre est discutable, mais dans l'ensemble, il y a eu des pertes des emplois directs et indirects. Donc ce voilà, programme vient en réponse pour pallier tant soit peu à ces dilemmes qui se posent particulièrement aux provinces du Katanga. Mais ça, c'est une phase préparatoire, c'est une phase pilote. Et le projet est appelé à terme à s'étendre aux autres provinces.
Mmh.
Et le coût de ce programme, qui est un programme financé par le Royaume de Belgique à travers les programmes indicatifs de coopération,
mmh,
a un coût de 5 170 428 dollars des États-Unis.
Oui.
Pour une durée de 36 mois.
Ok.
Et donc, il sera exécuté par le Bureau international du travail,
mmh,
en étroite relation avec le gouvernement, à travers le ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, le ministère de la Jeunesse, Sport, Culture et Arts, au niveau national, mais au niveau provincial, c'est le gouvernorat provincial, voilà, l'INPP, l'ONEM, l'intersyndicale du Congo et la Fédération des entreprises du Congo.
Mmh.
Et donc, au-dedans de ces projets, il est établi des mécanismes de suivi, d'exécution des activités et de reporting. Il faut signaler que le gouvernement congolais ne va pas gérer ces fonds parce que ces fonds, ces programmes seront gérés par les BIT, du point de vue technique, du point de vue financier.
Okay.
Et les BIT est responsable. En fait, il est redevable vis-à-vis et du Royaume de Belgique et du gouvernement de la RDC par rapport à l'exécution et de ces projets et de la gestion des fonds.
Mmh.
Et au niveau de ces projets, il y a des mécanismes qui ont été établis, comme tout projet des Nations Unies d'ailleurs, des mécanismes de suivi, de vérification, voilà, sur le terrain, également, voilà, du reporting pour s'assurer de ce qui était prévu comme objectif.
Mmh.
Et de ce qui est attendu comme résultat.
Mmh.
Donc, c'est pour dire aux auditeurs, aux aimables, voilà, en fait, invités qui sont en ligne des données et Paulin pour les rassurer, que le mécanisme sont mis en place pour faire en sorte que, quelle que soit la faiblesse de l'administration publique, mais ces fonds ne seront pas gérés par l'administration congolaise. Ce sont, mmh, des fonds qui seront gérés par le Bureau international du travail, BIT, qui a mis en place une équipe qui a été sélectionnée sur des critères tout à fait transparents, et c'est une équipe qui est opérationnelle au Katanga depuis début octobre 2012.
Mm-hmm.
Et le lancement officiel de ce programme a eu lieu le mardi 19 mars à Lubumbashi.
Voilà. Mais par rapport à l'exécution, en fait, cela concerne quoi exactement? Qu'est-ce qu'on doit faire? Recruter des jeunes, aller dans le milieu, prendre ceux qui n'ont pas de l'emploi, ceux qui sont à l'école? Qu'est-ce qui va être fait concrètement pour ces jeunes?
J'en viens maintenant aux objectifs. Mmh. Il y en a quatre. Aux objectifs de ce programme.
Oui.
Le PAEJEC. Le premier objectif stratégique, c'est le renforcement des capacités entrepreneuriales des jeunes, hommes et femmes.
Oui.
Et se base sur une certaine hypothèse, que le développement des potentiels et la créativité des jeunes, filles et garçons, afin de développer un esprit entrepreneurial à succès.
Mm-hmm.
C'est-à-dire développer une culture d'entrepreneuriat, de créativité, et d'aptitude entrepreneuriale qui devrait être inculquée ou être développée dans les chefs de ces jeunes.
Uh-huh.
L'objectif stratégique 2, c'est l'accès accru des jeunes entrepreneurs à la microfinance.
Uh-huh.
Je vous l'ai dit ici, mais c'est un rappel, c'est que même, uh-huh, Dieu le Père, si bon soit-il, il n'a pas tout donné à l'homme. Il a donné à l'homme un certain sens de créativité,
oui,
pour sortir des sentiers battus. Et donc, ces jeunes-là, quel que soit tout ce qu'on peut leur donner, on ne donnera pas tout ce dont ils ont besoin.
Oui.
Et donc, indépendamment des appuis qui pourront leur être apportés, il va falloir qu'on établisse des passerelles entre le projet et les institutions de microfinance, qui sont des banques, pour faire en sorte que ces jeunes-là puissent être aidés à pouvoir élaborer ce qu'on appelle plan d'affaires ou business plan,
mm-hmm,
qu'ils pourront présenter auprès des institutions financières qui pourront les aider à pouvoir bénéficier d'un peu plus des moyens par rapport au déficit en termes des moyens que le projet mettra à leur disposition.
Oui.
Et la stratégie pour cela, c'est développer l'offre financière des jeunes, c'est de renforcer la capacité des jeunes à formuler
des projets
fiables,
oui,
et innovants,
mm-hmm,
c'est la prise en compte des facteurs risques liés à la cible jeune et aux risques environnementaux.
Mm-hmm.
L'objectif stratégique 3, c'est l'accroissement de l'employabilité des jeunes sortant des établissements de formation professionnelle à travers le renforcement des capacités de l'Institut national des formations professionnelles, qui est l'INPP, afin d'assurer une offre de compétences répondant aux défis de l'employabilité des jeunes. Et l'objectif stratégique 4, et enfin, c'est le renforcement des capacités provinciales, de la gouvernance du marché du travail. Parce que même si les jeunes ont les moyens, ils ont la compétence, on leur donne tous les moyens, mais si l'environnement ne répond pas, il faut que l'environnement soit souple, il faut que l'environnement soit favorable. Et donc, il s'agira d'aider le gouvernement provincial, comme c'est une phase provinciale, de mettre en place un dispositif qui facilitera la gouvernance du marché du travail et la promotion de l'emploi des jeunes. Et enfin, appui au secteur identifié comme prioritaire en termes de création d'emplois. Parce qu'on ne devra pas investir partout. Il faudra que les jeunes soient orientés vers des secteurs porteurs par lesquels ils pourront s'épanouir.
Et voilà, on s'arrête à ce niveau-là. Le temps d'écouter encore les auditeurs de revenir à vous. C'est bien tracé clairement les quatre objectifs. On pourra, ensemble avec les auditeurs, leur point de vue, leurs propositions aussi, et voir comment on peut élargir les idées autour de cela et rendre tout cela plus pratique, opérationnel pour la jeunesse. Et comment ça peut inspirer aussi la jeunesse des autres provinces, peut-être qui n'ont pas encore, bien sûr, ces projets, mais d'autres projets peuvent aussi arriver ailleurs, qui ne sont pas forcément financés par l'Europe de Belgique, mais d'autres partenaires aussi peuvent s'investir dans le domaine. 081 890 4339.
Ils parlent de leur vie, de leur parcours et se livrent à cœur ouvert. Grand Témoin invite des femmes et des hommes de culture, des acteurs politiques, sociaux et du monde économique qui ont croisé différents événements et les changements qui ont accompagné les grandes étapes de la construction du pays. Grand Témoin, 45 minutes pour mieux comprendre notre histoire commune racontée par ces acteurs. Tous les dimanches, 12h15, heure de Kinshasa, en compagnie de Kéline Couté sur Radio Okapi.
Parole aux auditeurs.
Rachel, vous êtes avec nous d'ici en province orientale, bonjour. Vous avez suivi les uns et les autres et notre invité, comment il a dressé les tableaux clairement du projet, cette réflexion que nous faisons ensemble autour de l'emploi de jeunes. Quel est votre point de vue?
Oui, moi, je suis vraiment très contente d'attendre qu'on ait un peu de passé aussi aux jeunes. Donc, moi, je suis vraiment très heureuse qu'on pense à nous. Là, ça va vraiment nous encourager. Vous savez, tel que je suis ici, j'étudie. Il y a des gens qui abandonnent les études. La plupart des gens, ce sont des garçons qui abandonnent les études pour dire que non, même si j'ai terminé mes études aujourd'hui, je ne trouverai pas le travail si facilement. Mais c'est que cette idée-là qu'on a pris pour faire des emplois pour les jeunes, vraiment, c'est vraiment une bonne chose qu'on fait. Et là, vraiment, on doit maintenant voir à qui on doit remettre cet argent. Que ce soit quelqu'un qui est vraiment sérieux. Une personne qui ne peut pas détourner cet argent. Parce que c'est une bonne chose qu'on fait. Ce sont les gens sont les futurs, donc les gens, les convois de demain, c'est un prénommé. Et si maintenant on est négligé tout ça, vous voyez que ça ne sera pas bien. Alors, c'est vraiment bien si on remettait cet argent à quelqu'un qui soit bien dirigé pour donner, pour encourager vraiment les jeunes d'étudier et pour devenir encore des gens demain pour ne pas les décourager. Vraiment, c'est vraiment une bonne chose. Comme aujourd'hui, c'est demain. Espérons que demain, ce sera ici chez nous. Ici. Vraiment, c'est vraiment une bonne chose qu'on a fait.
Merci beaucoup Rachel, c'est mieux. D'ailleurs, vous avez raison de dire qu'il y a des jeunes des fois qui se découragent, qui abandonnent l'école là où vous êtes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus d'espoir, ils ne trouvent pas nécessaire de continuer parce que demain il n'aura pas de l'emploi. Les uns abandonnent comme ça pour se lancer dans n'importe quelle activité parce qu'ils pensent qu'un étudiant il ne pourra plus accéder à l'emploi. Mais votre souci c'est de savoir entre les mains de quels jeunes on peut déposer les fonds pour la créativité et puis que les projets s'étendent aussi en province orientale. Et Joseph, vous êtes à Bukavu, dans la province du Sud Kivu. Bonjour, Joseph.
Oui, bonjour, merci de m'avoir la parole. Je pense que le projet, c'est encourageant, vraiment, et de nous éclaircir. Mais je voulais ajouter, puisque parfois on donne des aides, mais le projet commence. Mais pourtant, c'est bien difficile. L'argent disparaît, on ne sait pas, on le gère comment. comme c'est pour la... Bien. Mais je voulais poser la question à l'invité.
Oui.
Pourquoi on fait tant de provinces ou bien on va accorder aussi pour d'autres provinces cette opportunité?
La oui, deuxième... oui. Oui, allez-y. On a des petits soucis avec vous. Vous sortez entrecoupé, mais la première question a été notée. Vous voulez savoir auprès de notre invité s'il y a aussi d'autres partenaires ou même les mêmes partenaires ont aussi le projet de pouvoir s'investir ici dans d'autres provinces pour permettre aux jeunes de bénéficier de cela. Et la deuxième question, rapidement, Joseph.
Oui, la seconde. Si la Belgique ne pourrait pas aider, ne pourrait pas donner cet... Est-ce que le...
Mais non, on a là, c'est impossible. Vous, la deuxième question, l'esprit de la question, c'est de savoir si on ne peut pas avoir un appui qui vienne du Royaume de la Belgique. Est-ce que le gouvernement congolais a-t-il le projet dans le même sens? Mais malheureusement, les auditeurs n'ont pas bien suivi la suite de votre question. On a dû capter juste les débuts de la question qui évoquait la possibilité du gouvernement congolais d'investir dans le même secteur. Médard, vous êtes à Kananga, au Kasaï occidental. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous avez suivi comment notre invité a pu expliquer par rapport à ces projets, mais on a aussi besoin de savoir d'autres mécanismes qui peuvent s'inscrire dans l'avenir pour permettre aux jeunes, que ce soit ceux qui sont à Kananga, de pouvoir accéder à l'emploi. Qu'est-ce que vous pouvez proposer?
Moi, selon moi, monsieur le journaliste, je suis très pessimiste parce que vous allez constater avec moi que dans ce projet-là, vous verrez que ce sont les petits frères, les ministres, de toutes les autorités de ce pays qui seront donc bénéficiaires de ce projet. Donc, je vais demander à l'invité de nous dire quelle catégorie de personnes qui seront bénéficiaires de ce projet.
Merci beaucoup, Médard. Vous êtes très inquiet. Vous pensez qu'on peut vivre un trafic d'influence dans l'octroi de soutien ou de formation aux jeunes et que l'invité nous précise quelle catégorie de jeunes sont concernés pour bénéficier de ces projets. On va directement vous accorder la parole, Roger Cambou. Vous avez suivi Rachel Dissiro qui... Il s'inscrit dans la même logique de savoir si les jeunes qui vont bénéficier du projet, ce sont des gens qui sont outillés pour mieux gérer l'argent qu'ils peuvent avoir pour la création, la créativité. Mais il y a aussi l'inquiétude de notre ami Joseph par rapport à l'ensemble du projet, bien sûr, dans d'autres provinces. Et Médard de Kananga voudrait savoir qui sont les jeunes qui sont concernés vraiment dans ces projets.
Merci beaucoup. Voilà, merci à Rachel qui est à Isiro, merci à Joseph qui est à Bukavu, et merci à Meda qui est à Kananga. Mm-hmm. Et dans tous ces sites, j'y ai été pour avoir travaillé pour d'autres projets également. Donc je salue tous les amis qui sont dans ces villes-là.
Oui.
Pour essayer de les rassurer, c'est de dire que tout projet développé par les Nations Unies ou exécuté par une agence des Nations Unies est soumis à des mécanismes de gestion et l'obligation de transparence et de redevabilité.
Oui.
C'est-à-dire, lorsque je parle de redevabilité, on va intégrer une nouvelle dimension. Aux Indes, voilà, par exemple, lorsque des agences de coopération travaillent sur des projets de développement, dans chaque site, il y a un panneau qui renseigne qui finance, qui exécute, pour combien de temps, à qui s'adresse voilà ces activités et pour quel montant. Et donc, voilà, tout villageois, tous les membres des communautés savent quel est le montant qui est alloué à telle activité, quel est le partenaire de la sous-traitance de cette activité s'il y en a, et si jamais les résultats ne sont pas atteints, à qui s'adresser. C'est dans ce sens-là. Donc, je peux le rassurer pour dire que le mécanisme de transparence existe et sont garantis. Les jeunes qui sont concernés, ce ne sont pas les petits frères au ministre. Je ne voudrais pas prendre fait et cause pour les membres du gouvernement qui peuvent nous suivre en direct ou en différé, mais c'est de dire que si voilà pression il peut y avoir ou il y en avait, il n'y en aura plus. Et même s'il y en aura, on ne pourra pas faire allégeance à ces pressions. Parce que c'est un projet qui est exécuté par une agence des Nations Unies. Et tout celui qui a déjà travaillé avec les agences des Nations Unies sait qu'on est protégé par les privilèges et immunités. Il y a des conventions qui ont été signées entre les Nations Unies et les gouvernements qui protègent l'indépendance des agences des Nations Unies. Donc sur ce point, qu'il soit rassuré, s'il y a un jeune qui se trouve dans l'axe, et même lorsqu'on parle du projet provincial, mais ce n'est pas à travers toute la province. Mmh. C'est un projet qui cible l'axe Lubumbashi, Kolwezi et Likasi.
Mmh.
Et donc, les jeunes qui figurent dans cet axe-là, et qui sont des jeunes sortis des institutions de formation professionnelle, ce sont ces jeunes-là qui seront ciblés et qui rentrent dans les critères qui ont été élaborés des communs accords. Donc, sur ce point-là, je peux les rassurer. Alors, par rapport à l'extension du projet, j'ai dit que c'est une phase pilote.
Mm-hmm.
Mais la suite ne dépend pas de nous. Il y a plusieurs implications quant à la suite et à l'extension de ces projets dans notre province. Je voudrais déjà me rassurer que par rapport au mécanisme de transparence, même nous, en tant que l'OIT, mais on n'a pas tout reçu du bailleur des fonds. C'est par étapes que les décaissements,
le décaissement
des fonds,
oui,
se fera. C'est-à-dire qu'il y a une première tranche pour telles activités. On évalue, on fournit tous les rapports, on fait la vérification. Il y a une deuxième étape qui est décaissée, ainsi de suite. Donc il y a des mécanismes de transparence à tous les niveaux qui font que si on ne gère pas bien, le projet sera arrêté.
Mm-hmm.
Mais s'il se trouve que l'environnement socio-économique et politique, s'il ne s'y prête pas, on peut également interrompre.
Mm-hmm.
Et c'est la partie de projet de coopération qu'on appelle hypothèse.
Mm-hmm.
Si les hypothèses ne sont pas favorables à la réalisation effective du projet sur le terrain, on peut arrêter à tout moment.
Mm-hmm.
Les projets. Et on informe la contrepartie nationale pour dire, voici, en tenant compte de telle et telle autre raison, on ne peut pas poursuivre l'exécution du projet.
Mm-hmm.
Parce qu'on va droit à un mur.
Mmh.
Donc, on n'est pas des kamikazes pour dire que même si on sent qu'il n'y aura pas, qu'il n'y aura pas de résultat, qu'on va foncer. Non, non. On devrait arrêter à ce moment-là.
Mmh.
Et donc, quant à l'extension du projet dans d'autres provinces, oui, ben la Belgique, comme je l'ai dit tantôt, que la crise financière internationale est valable pour tous les pays. Et en fait, elle est même plus sévère pour les pays de l'Occident. Et c'est-à-dire que la Belgique a fait, violence et nous devons la remercier. C'est-à-dire que vraiment, c'est l'argent du contribuable belge qui a été mis sur la table.
Mm-hmm.
Bon, maintenant, s'il y a d'autres partenaires, d'autres bailleurs qui estiment qu'ils peuvent s'associer aux efforts que la Belgique a démarré pour pouvoir venir en aide très rapidement à d'autres provinces, voilà, tant mieux. Et cette aide-là sera toujours la bienvenue.
Mmh. Oui, Roger Cambou, voilà. Par rapport à ces inquiétudes de nos auditeurs sur les choix de jeunes, est-ce que ces jeunes sont pris individuellement ou ils se retrouvent dans des structures quelconques comme des ONG ou au niveau des autorités locales qui doivent fournir, je ne sais pas comment on existe sur le terrain pour identifier les jeunes qui, comme vous l'avez dit, qui sont sortis des institutions professionnelles et qui sont dans les besoins.
Oui, ces jeunes sont en fait identifiés à travers leur structure de formation.
Mmh.
Et c'est là où je voudrais dire que pour... parce qu'on ne saura pas cibler tous les jeunes. Et le niveau de chômage à travers la RDC est tel que il est très difficile de savoir qui est jeune dans les besoins et qui est jeune qu'il faudra zapper. Donc, mm-hmm, dans ce sens-là, ce sont les structures de formation partenaires au projet, telles que la Cité des Jeunes, telles que l'INPP, telles que d'autres institutions de formation dans les Katanga, qui suggèrent des jeunes ciblés sur la base d'un critérium préalablement établi,
oui,
et validé. Les autorités ne recommandent pas, parce que ce ne sont que les jeunes qui ont été préalablement identifiés par cette structure de formation. Donc, qu'il se rassure qu'il n'y a pas de pression de la part des autorités qui souhaitent au contraire que ce projet puisse réussir pour être un exemple par rapport à d'autres initiatives.
Voilà.
Mais également, je voudrais dire que comme on ne saura pas atteindre tous les jeunes en tenant compte des moyens, sinon on va craquer, c'est qu'il y a des appuis également qui vont en direction des institutions de formation.
Mm-hmm.
C'est pour faire en sorte que 10 ans après, 20 ans après, que les autres jeunes puissent être jouisseurs de ces interventions. Par exemple, on a prévu doter les institutions de formation ciblées de kits d'ordinateurs.
Mm-hmm.
Parce que, par le temps qui court, si nous parlons des nouvelles technologies de l'information et de la communication, c'est qu'il faut savoir voilà, brasser voilà, plusieurs langues, mais également, il faut savoir utiliser l'outil informatique.
Oui.
Et donc, dans le lien qui nous lie avec les entreprises minières qui sont les véritables consommateurs de cette main-d'œuvre en devenir, ils disent, voilà, nous voulons que les jeunes voilà, que nous recherchons soient voilà, courtiers de telles compétences ou de telles filières,
mm-hmm.
qu'ils viennent de telles filières. Et la formation qui vient, ce n'est pas une formation en l'air. Parce qu'on ne va pas tout simplement voilà, cibler ceux-là qui ont déjà fini, mais ceux-là qui sont en cours de formation pour essayer de les acclimater afin qu'ils soient vraiment un produit fini et opérationnel. Parce que le vrai problème dans ces pays, ce n'est pas la compétence, mais c'est l'employabilité.
Voilà.
C'est-à-dire que beaucoup de jeunes sont porteurs des papiers, mais ces papiers sont inutiles. Tout simplement parce que soit qu'on est porteur d'un certain papier, voilà, qu'on ne mérite pas. Et donc, la méritocratie doit être au rendez-vous parce que lorsqu'on va dans une entreprise face à l'emploi, ce n'est pas le papier qui va travailler à leur place, mais c'est la personne qui doit faire montre de quoi dont il est capable. Et donc, on joue sur ces aspects-là pour faire en sorte que les jeunes qui sortent mettent toutes les chances de leur côté pour qu'ils soient opérationnels, utilisables, mais que ça ne soit pas un produit périmé ou inutile.
Merci Roger Kambou, on vous garde en ligne. Il y a Rajabou qui nous appelle de Kindou, Ismaël qui est à Lubumbashi. On va à la dernière partie de cette émission. Vous pourriez aussi nous expliquer aussi un peu, au niveau de BIT, quelles sont les actions peut-être que BIT mène aussi pour permettre ou appuyer le pouvoir public congolais dans le domaine de l'emploi. On va en discuter avec vous vers la dernière partie de l'émission. Le temps d'écouter Rajabou qui est à Kindou et Ismaël qui est à Lubumbashi. Rajabou, bonjour. Rajabou, bonjour. On a perdu Rajabou de Kindou. Ismaël, vous êtes à Lubumbashi dans le Katanga. Bonjour Ismaël.
Bonjour Pierre, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Kapi.
Nous parlons de ces projets qui concernent bien sûr l'emploi, la formation de jeunes dans le Katanga. Depuis le début, l'invité a eu à expliquer vraiment loin et à large. Et vous êtes à Lubumbashi qui est concerné par ces projets qui va bientôt démarrer. Quel est votre point de vue?
Mon point de vue est d'abord de remercier cette initiative. Nous voyons que la République démocratique du Congo, qui vient dans le chômage, vient avoir aussi un accès à d'autres tâches. Mais du moins, j'avais d'abord une petite question que je devais poser à l'invité, à savoir ce qui nous intéresse. Est-ce que c'est l'initiative ou l'accès à des différents services? C'est parce qu'ici, à Lubumbashi, le chômage va coréen. C'est ça d'abord ma première préoccupation.
Et vous avez, qu'est-ce que vous avez demandé? Et s'il vous plaît, Ismaël, vous avez posé la question concrètement, qu'est-ce que vous demandez?
Mais je demanderai d'abord, ce que nous pouvons nous réjouir, c'est d'initiatives en vue d'accéder à l'emploi ou c'est l'accès à l'emploi? C'est ça d'abord la question que je vais poser.
Ok, allez-y, maintenant, continuez.
En plus de cela, je pensais qu'ici à Lubumbashi, nous avons encore une intense difficulté juste pour accéder à un emploi. Et nous vivons dans un pays où le tribalisme et l'impartialité bat cohérent. C'est une difficulté encore, même si cette initiative va arriver jusqu'à ce qu'on puisse faire des examens pour accéder, ça va toujours avoir une intense difficulté. Pour moi, comme j'ai encouragé au début de mon intervention, je veux dire à ceux qui ont aussi un suivi. Si on n'a pas aussi le suivi, on va rester encore désimmergé parce qu'on va prendre celui-ci et tel, celui-là et tel, ça va avoir encore une intense percussion sur la population louchoise. Je demanderai aussi à l'invité, juste comme il a expliqué, je l'ai suivi avec un grand intérêt. Et notre essentialité est que nous puissions aussi accéder, tel que moi, présentement, que je vous parle, je suis aussi un chômeur. Et les chemins par lesquels nous devons aussi accéder facilement à cette tâche, c'est ça mon humble intervention.
Merci Ismaël. Votre première question s'adresse à d'autres invités. Vous voulez savoir si ce qui peut vous réjouir à Lubumbashi, c'est tout l'ensemble de la jeunesse congolaise, ce sont des initiatives pour l'accès à l'emploi ou l'accès à l'emploi lui-même, mais vous êtes aussi très inquiet par rapport au trafic d'influence. Là, l'invité a pu donner les garanties et vous voulez savoir quels sont les mécanismes, les schémas, la procédure pour ceux qui sont à Lubumbashi pour accéder à ces projets. Merci beaucoup. Nous restons dans la même ville avec Mohamedi. Bonjour Mohamedi.
Bonjour messieurs les journalistes.
On vous écoute.
Ok, vraiment, je remercie assez de m'avoir donné quand même cette parole. Ce que j'aimerais dire, c'est si vraiment notre gouvernement échoue quand même sa responsabilité. Pourquoi notre gouvernement aime souvent de prendre la responsabilité de l'extérieur et amène dans son pays? Bien sûr, ce que le royaume de la Belgique avait fait, ce n'est pas mauvais, c'est bon. Parce que ici à Calémie, précisément, bon, il y a les autres jeunes gens, une fois seulement qu'ils terminent leurs études, il n'y a pas de métier et se dirigent directement à la carrière. Alors, ma question est celle-ci, monsieur le journaliste.
Oui.
Est-ce que, quand ce mandat ici termine, est-ce que la Belgique aura quel résultat? Parce que la main qui donne, c'est la main qui reçoit.
Voilà, votre souci c'est oui, par rapport à l'influence.
J'ai augmenté, monsieur le journaliste,
rapidement, oui.
Le problème aussi du chômage, mais monsieur le journaliste, imaginez-vous, n'est-ce pas, hier j'ai suivi quand même la radio de la France, comment est-ce que François Hollande est en train de combattre contre le chômage en France? Mais pourquoi notre pays aime souvent prendre de l'extérieur et amener dans son pays? Cela veut dire qu'il échoue sa responsabilité.
Voilà, merci beaucoup Mohamed. Votre inquiétude, c'est par rapport aux initiatives externes. Vous aurez voulu que dans ces débats, on parle du gouvernement congolais qui a créé 10 000 emplois pour les jeunes, mais plutôt qu'on parle de la Belgique qui appuie la création de l'emploi. Votre souci, c'est de voir le gouvernement congolais au devant de la scène dans la création de l'emploi. Merci beaucoup Mohamed. Nous rentrons dans la ville de Kananga. Olivier, vous êtes avec nous. Bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, Olivier.
Oui, Premièrement, je vais participer en donnant mon point de vue. Je sais que concerne
Olivier, essayez de vous déplacer un tout petit peu. Olivier, on a des petits soucis avec vous. Olivier, on a des petits soucis avec vous. Pendant que vous vous déplacez, nous, on va accorder la parole à notre invité pour réagir au propos des auditeurs, parce qu'on va revenir d'une manière globale en peut-être quelques mots sur l'action du BIT. Roger Cambo, vous avez suivi. Il y a Ismaël qui est à Lubumbashi qui dit ceci. Qu'est-ce qui doit réjouir les jeunes aujourd'hui? Ce sont des initiatives pour l'accès à l'emploi ou l'accès à l'emploi lui-même, mais il voudrait aussi savoir s'il y a un mécanisme, un schéma pour que la jeunesse de Lubumbashi puisse accéder à cela. Et Mohamed de Lubumbashi aussi, lui, est resté un peu plus inquiet par rapport aux initiatives locales qui peuvent permettre aux jeunes d'accéder à l'emploi, parce que ceux qui viennent de l'extérieur, un jour, ça peut s'arrêter d'une manière ou d'une autre.
Oui, merci beaucoup à Ismaël qui est à Lubumbashi. Disons que par rapport à sa question, il me demande s'il faut que les jeunes se réjouissent de l'initiative d'accès à l'emploi ou l'accès à l'emploi lui-même. Mais je dirais qu'il me semblerait que sa question ressemble un peu à l'histoire de l'œuf et de la poule. Donc il veut savoir qu'est-ce qui précède l'autre. Est-ce que c'est l'initiative ou l'emploi?
Oui.
Mais pour que tu accèdes à l'emploi, il faut d'abord que l'initiative naisse.
Exact, oui.
Il faut qu'il y ait d'abord une idée. Il faut d'abord que nous avons des outils. Les jeunes qui seront ciblés suivent des modules de formation qui sont très diverses, que nous appelons par exemple Get Ahead. Et Get Ahead est intégré dans le système de formation des écoles qui sont ciblées.
Mm-hmm.
On est d'ailleurs en concertation avec le ministère provincial de l'éducation pour que ces modules à l'instar d'autres pays puissent être intégrés dans les programmes de formation pour qu'à tous les niveaux. Un enfant aujourd'hui qui sort du cycle primaire, du cycle secondaire, qui n'est en tête, qui ne sache qu'il n'y a pas un emploi qui l'attend. Au temps on reste, on reste. Autre temps, on traverse. Donc il faut qu'il sache qu'il n'y a pas un emploi qui les attend à la fin de l'air qu'ils existent. L'homme doit se battre. Il faut sortir des sentiers battus. Il n'y a pas un emploi tout fait qui attend les jeunes. Il faut que les jeunes sachent qu'il n'y a pas des emplois qui les attendent. Donc il faudrait que lorsqu'ils sortent, qu'ils soient pas des demandeurs d'emploi, mais des créateurs
d'emploi.
C'est-à-dire,
oui.
Il faut qu'ils soient porteurs de projets. Et c'est pour cela qu'on se bat pour que le contexte soit favorable à l'initiative privée. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'un jeune homme qui sort, qui a un projet porteur, qu'il soit à même de pouvoir élaborer un plan d'affaires, un business plan, qu'il peut soumettre à une banque de proximité, une banque qui est résolument tournée vers la microfinance, et qui pourra l'aider. Mais je m'excuse, mais la Bible même dit qu'à celui qui a, on donnera, et à celui
qui n'a pas,
qui
n'a pas même on
prendra même
le
peu dont il dispose. Et donc, la banque ne prête pas aux pauvres, la banque prête aux riches. Et donc, pour que les jeunes prétendent bénéficier de quelque chose, il doit avoir voilà, un minimum. Un minimum, c'est qu'il faut avoir l'idée.
Oui.
Et donc, pour accéder à l'emploi, il faut d'abord l'initiative. Voilà. Et par rapport à la question qui m'a été posée par rapport, disons, au mécanisme d'accès.
Oui.
Disons que le... Voilà que le projet est situé, je n'ai pas l'adresse en tête à Lubumbashi parce que c'est récent, mais c'est aux abords de la cathédrale.
Mm-hmm.
Et la cathédrale et le coordonnateur de ce projet, c'est monsieur, vous connaissez le professeur Modeste Mutombo Kiamakosa. Il est enseignant à l'UNILU, mais c'est lui, voilà, le coordonnateur qui est à la tête de 9 personnes.
Mm-hmm.
Donc c'est une équipe qui est basée à Lubumbashi et qui est en train de travailler voilà, pour ce projet. Voilà, dans d'autres temps, si on s'adresse à Radio Okapi, on pourra toujours faire parvenir tous les coordonnées.
Oui. Mais un peu
et les jeunes, pour accéder aux activités de ce projet, j'ai en fait tout à l'heure dit que les projets travaillent avec les institutions de formation
professionnelle. De professionnels.
Donc on ne va pas aller partout à travers voilà, tous les coins des rues pour, voilà, pour battre la retraite. Voilà.
Oui, oui, oui.
Roger, tout, mais Roger, on travaille Kambouya. À travers les institutions de formation.
Ok, Roger Kambouya, un dernier auditeur sur les antennes, mais rapidement, Mohamed Idel Mbashi, lui, bon, en fait, il s'adresse un peu plus au gouvernement congolais pour dire, faudrait-il toujours attendre des initiatives extérieures. Un mot par rapport à ça et on va écouter les derniers auditeurs.
Oui, un mot par rapport à cela, c'est que dans vos antennes, je crois que Bodoké a suivi l'adresse et des personnalités, les ministres de l'Emploi, les ministres de la Jeunesse et les ministres belges de la coopération internationale. Qui ont dit que en fait, dans la stratégie de fonctionnement et des programmes du système des Nations Unies, nos projets de coopération technique n'ont pas comme vocation de résoudre tous les problèmes. Il n'y a en fait à travers bon, le monde, il n'y a pas d'ailleurs un pays qui a été bon, développé par les Nations Unies. Mais les programmes ont comme finalité
un appui.
De mener des activités de démonstration. C'est-à-dire que c'est pour permettre à la contrepartie nationale de pouvoir s'inspirer de ce que font les nations, de ce que devait être au moins la situation en temps normal. Et il revient donc au gouvernement, à la contrepartie, de pouvoir intérioriser et la stratégie, et les activités, et les actions pour pouvoir voilà, intérioriser et intégrer cela dans ses plans de développement. National et sectoriel.
Voilà, on écoute le dernier auditeur rapidement. J'y reste, vous êtes en bande de cas. On vous accorde plus ou moins 40 secondes hein, par rapport pour votre intervention. On va permettre à notre invité de conclure cette émission. J'y reste, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste.
En 40 secondes rapidement, votre point de vue.
Oui, en fait, j'ai fortement aimé l'initiative et j'ai loué et je félicite l'intervenant. Alors, voilà un peu mon inquiétude, monsieur le journaliste. Nous avons qu'un seul pays qui s'appelle le Congo. Alors, dans le Congo, il y a plusieurs provinces. Mais je vois notre invité se focalise plus sur la province de Katanga. Alors, l'Équateur n'est pas classé. C'est comme si l'Équateur n'est pas une province classée dans ce pays. Ça, c'est un. De deux, je voulais un peu dire un mot à notre invité de savoir, en fait, l'organisation ou l'initiative en soi est la meilleure. Mais la grande cause est que quand on lance l'offre d'emploi, il y aura une jeunesse forte de la place en question qui va se présenter bien sûr et faire le concours. Ils seront surpris le jour où on va afficher les noms, la personne ou les personnes qui seront retenues, ça ne sera même pas la jeunesse pour les gens
au concours, de la place. Oui, voilà.
Il y aura des gens qui seront parfois provenant de Kinshasa qui viendront travailler dans la place où ils ne sont pas.
Merci beaucoup. Merci, Jirès. On ne saura pas aller plus loin parce qu'on doit vraiment rapidement conclure cette émission. Par rapport à votre première question, vous avez dit pourquoi on n'a pas choisi la province de l'Équateur, pourquoi pas seulement. Et là, l'invité avait déjà dit que c'est un projet pilote. Un projet pilote commence toujours par un coin et après l'expérience, on peut voir comment on peut l'étendre ailleurs. C'est par rapport à ça. Mais là aussi, l'inquiétude, c'est de savoir sur les offres, hein, on risque de se retrouver avec des jeunes qui ne sont pas dans le milieu, qui ne peuvent pas bénéficier, et que des jeunes soient importés ailleurs pour venir bénéficier de ces projets à Lubumbashi. On revient à vous rapidement, Roger Kambo. Vous avez suivi les uns et les autres. Peut-être qu'on n'a pas le temps de pouvoir développer les actions que les BIT mènent pour soutenir le pouvoir public dans la création de l'emploi. Mais rapidement, en une minute et demie, ça peut être possible qu'on en parle et puis qu'on puisse aussi conclure cette émission rapidement, Roger Kambo.
Oui, merci beaucoup. Je voudrais voilà, saluer mon frère qui est en Bandaka et les rassurer pour lui dire que moi qui vous parle, je ne suis pas un Katangais, je suis du Bas-Congo.
Mm-hmm.
Ce n'est pas important, mais c'est pour te dire qu'on est tous Congolais et je ne trouve aucun gêne qu'on soit peut-être voilà, bon, de telle ou de telle autre province, qu'on se retrouve, voilà, si la ligne de mire d'une activité qui intéresse tous les Congolais, parce qu'on peut être natif de l'Équateur, ou du Kasaï, ou de la province orientale, mais qu'on se trouve dans l'axe Lubumbashi, Kolwezi et Likasi, et qu'on est dans les critères, qu'on soit ciblé par les projets.
Mm-hmm.
Donc, c'est une phase au pilote qui se focalise sur une première phase dans les Katanga, et quelle que soit sa voilà, provenance, si on est en ligne de mire, on devrait être bénéficiaire si on est dans les critères.
Mm-hmm.
Alors, par rapport à l'action voilà, de l'OIT en appui au domaine de l'emploi au gouvernement, je dirais que il est très difficile de pouvoir en parler en quelques secondes, mais je dirais que ce qui est plus récent, c'est l'appui qu'on accorde, c'est l'appui technique et multiforme qu'on apporte au gouvernement par rapport à l'élaboration de la politique nationale de l'emploi et de la formation professionnelle.
Merci.
Qui a été validée à un premier niveau, au niveau du Conseil national du travail en 2011, et il est en instance d'être approuvé, voilà, d'être avalisé en Conseil des ministres et être voilà, promulgué par l'autorité pour les compétentes.
Merci beaucoup. Merci en tout cas, Roger Kambou, on ne saura pas aller plus loin. En tout cas, merci de votre disponibilité. On a débattu ensemble à ce sujet. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes chargé de programme le point focal communication au niveau des BIT. On va se retrouver le lundi prochain. Les Nations Unies ont donné mercredi à la RDC une dernière semaine pour agir contre les soldats de deux bataillons des FARDC accusés d'avoir commis au moins 126 viols en novembre dernier à Minova, dans la province du Sud Kivu. L'ultimatum a été lancé par le chef de la mission de maintien de la paix de l'ONU, Hervé Latsous, lors d'une réunion à New York avec le ministre congolais des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda. Et la question pour l'échange de lundi prochain, que vous inspire cet ultimatum? Nous disons merci à toute l'équipe qui nous a aidé à produire cette émission, Jir Lungembo et Titi Mputu à la réalisation, Sylvain Matundu à la mise en onde, Ben Kabamba a assuré la supervision. On se retrouve le lundi prochain. Au revoir et bon week-end à tous.